C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 18 avril et aujourd'hui nos yeux se tournent vers le ciel puisque nous allons parler d'une problématique encore trop peu abordée, la pollution lumineuse.
En effet, l'omniprésence de l'éclairage artificiel dégrade grandement la qualité du ciel et pose de nombreux problèmes comme la difficulté pour les astronomes à bien travailler, mais vous allez voir que cela peut aller bien plus loin.
Et cette problématique de la qualité du ciel, elle faisait l'objet d'un atelier la semaine dernière à l'occasion du Turfu Festival, atelier animé par nos deux invités, Marie Grand, chargée de projet réseau et recherche participative à l'Association française d'astronomie, et Guillaume Langin, journaliste à Ciel et Espace et chargé de sciences participatives à l'Association française d'astronomie.
En deuxième partie, vous aurez l'occasion de redécouvrir la cinquième cellule consacrée à réflexion, le projet qui met en valeur le travail de jeunes doctorants. Cette semaine, ce sera le tour de Rita Lenoir, doctorante en sciences de rééducation.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
Et on commence avec de l'astronomie, la sonde européenne JUICE, en partance pour les lunes de Jupiter, a réussi son décollage.
Et oui, c'est l'une des missions phares de l'agence spatiale européenne qui démarre. Une fusée Ariane 5 contenant la sonde JUICE vient de quitter vendredi Kourou en Guyane, direction les lunes jupitériennes. Arrivée prévue en 2031, c'est long, mais en même temps, Jupiter se situe à 628 millions de kilomètres de la Terre.
Mais concrètement, à quoi va servir cette mission ?
Eh bien, la mission JUICE, elle a plusieurs objectifs, mais le principal, c'est non pas de trouver directement de la vie, mais au moins de trouver des environnements propices à son apparition, car si la vie est ou a été impossible sur Jupiter directement, les lunes de la géante gazeuse pourraient être susceptibles de l'accueillir, mais pour tout savoir sur ces lunes jupitériennes, il faudra être patient, la mission doit durer jusqu'en septembre 2035. Et si le décollage de la sonde JUICE a fonctionné, ce n'est pas le cas de la fusée Starship de l'entreprise SpaceX qui a été reportée à cause d'un défaut technique.
Oui, cette fusée avait pourtant de grandes ambitions, des voyages entre la Lune et Mars, rien que ça, mais les passionnés de conquête spatiale vont devoir encore attendre un peu. La fusée devait décoller hier, lundi 17 avril à 15h20 précisément, mais une valve apparemment a gelé et a retardé la mission.
Et est-ce que ce genre d'accident est fréquent ?
Plutôt oui, il faut dire aussi que la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. La fusée Starship mesure 120 mètres de haut et dispose de 33 moteurs. L'arrêt ou même l'explosion d'un seul moteur pourrait faire un effet domino et détruire tous les autres moteurs, ce qui n'arrangerait pas les choses. Selon le patron de SpaceX, Elon Musk, cet incident était à prévoir. On ne sait toujours pas quand Starship va décoller à nouveau. C'est un record un peu fou que vient de battre Béatrice Flamini, passée plus de 500 jours dans une grotte à 70 mètres de profondeur.
Et oui, le 21 novembre 2021, cette sportive de l'extrême espagnole s'est enfermée dans une grotte près de Motril en Andalousie pour n'en ressortir que vendredi dernier, au total donc 508 jours à devoir s'occuper dans des conditions extrêmes. Alors on vous rassure, des vivres lui étaient régulièrement envoyés sans pour autant qu'elle ne croise ses ravitailleurs. Alors pour rompre l'isolement et s'occuper, Béatrice Flamini a peint, lu ou encore tricoté.
Mais quel est l'intérêt d'un tel défi ?
Eh bien le long isolement de Béatrice Flamini s'inscrit dans le cadre d'une expérience dont l'objet est d'évaluer l'impact physique et mental d'un isolement total et d'une perte de repères temporels de longue durée. Une découverte inquiétante et mystérieuse maintenant avec un homme porteur d'un champignon mortel pour les arbres.
C'est un patient indien, un mycologue, qui est venu se plaindre à l'hôpital d'une forte toux, d'un enrouement important et d'une forte fatigue. Les médecins ont dû être surpris de ne pas diagnostiquer une simple grippe, mais bien une infection d'un champignon, le Condostreum purpureum, plus connu sous le nom de la maladie du plomb.
Mais en quoi est-ce que ce champignon est-il dangereux ?
Eh bien, il infecte les végétaux, les arbres fruités en particulier. Il s'étale sur l'ensemble de l'écorce avec une couleur violacée. L'infection ternit les feuilles qui prennent une couleur noire et entraîne la mort quasiment à chaque fois de l'arbre. D'après les premières analyses, le patient indien a été infecté par les spores du champignon, une infection par les voies pulmonaires donc. Il a pu être soigné après une intervention chirurgicale avec un traitement fongique. Et on termine avec ce défi incroyable que veut se lancer un Népalais de 43 ans, gravir l'Everest.
Oui, alors gravir l'Everest, des milliers de personnes l'ont déjà fait, mais Haribuddha Magar devra surmonter une difficulté en plus. Il n'a pas de jambes. Ce vétéran de la guerre d'Afghanistan blessé au combat a dû être amputé au-dessus des genoux, mais visiblement, ça n'est pas un problème pour lui de se lancer des défis, comme il aime le rappeler avec sa devise « ni jambes, ni limites ».
Mais est-il le premier à réaliser un tel défi ?
Alors non, si Haribuddha Magar arrive au sommet de l'Everest, il ne sera que le troisième amputé à réaliser cet exploit, après le néo-zélandais Mark Inglis en 2006 et le chinois Xiaobo Yu en 2018. Rendez-vous le mois prochain pour savoir si Maga rejoindra ce petit groupe.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
La semaine dernière se tenait à Caen le Turfu Festival, notre dernière mission y était d'ailleurs consacrée. Pour rappel, ce festival c'est l'occasion de questionner l'innovation et contribuer à réinventer la société de demain. Le tout grâce à des ateliers, des rencontres, des discussions avec des chercheurs, des journalistes ou encore des artistes. Et parmi les ateliers proposés, on en retrouve un consacré à la mesure de la qualité du ciel. Atelier animé par mes deux invités, tout d'abord Marie Grand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet réseau et recherche participative à l'Association française d'astronomie. Et vous êtes accompagné de Guillaume Langin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Ciel et Espace et chargé de sciences participatives à l'AFA. Comme j'ai dit en introduction, vous avez animé à l'occasion du Turfu Festival un atelier qui était intitulé « Des étoiles dans un télescope en carton » qui traite entre autres de la question de la qualité du ciel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet atelier ?
Donc on a proposé cet atelier pour mesurer la qualité du ciel qui est dégradée en fait par la pollution lumineuse. Donc mesurer la qualité du ciel, c'est mesurer la quantité de pollution lumineuse qui sévit dans l'endroit où vous vivez, donc en ville, à la campagne. Et cette pollution lumineuse est générée par les lumières artificielles des villes la plupart du temps. Donc on a identifié, nous, trois projets existants qui appellent les citoyens, monsieur et madame tout le monde, à mesurer avec leurs propres moyens la qualité du ciel, la pollution lumineuse. Et on a présenté ces trois moyens de mesure citoyennes, de mesures participatives lors du festival du Turfu.
Oui, il s'agissait aussi de rappeler quelques notions sur la pollution lumineuse, qu'est-ce que c'est, en quoi est-ce que ça nous gêne, est-ce que ça nous gêne en fait, vraiment, dans notre quotidien, et de rappeler un petit peu aussi les contextes légaux, les recommandations, les prescriptions qui sont en vigueur et peut-être pas forcément respectées.
Quand on parle de pollution lumineuse, c'est un terme qui est assez générique, mais concrètement, ça veut dire quoi ?
Donc la pollution lumineuse, généralement, elle englobe plusieurs choses. Elle englobe donc ces lumières artificielles directes qui nous éblouissent la nuit ou bien qui créent un halo lumineux au-dessus des villes lorsque la lumière est diffusée dans l'atmosphère. Et également, il y a d'autres formes de pollution lumineuse qui sont les satellites dans l'espace, qui font des traînées lumineuses sur les photos des astronomes, ou les avions, ou bien même la Lune. La Lune est une source de pollution lumineuse naturelle, mais qui gêne l'astronomie lorsqu'elle n'est pas tournée vers la Lune. Nous, ce dont on a parlé là, pendant le festival et ce qu'on a appris à mesurer aux participants de nos ateliers, c'est la première forme de pollution lumineuse, c'est-à-dire celle des lumières artificielles des villes.
C'est principalement tout ce qui va être éclairage public, ce genre de choses, phare de voiture peut-être ?
Alors, public, privé, Marie, je te laisse rajouter.
Les lampadaires, les éclairages publics, donc les éclairages publics, les panneaux publicitaires, les bureaux allumés la nuit, les éclairages de monuments.
Les vitrines de commerce qui restent allumées la nuit. Toutes ces sources de lumière artificielle sont cumulatives, elles s'additionnent, elles s'ajoutent entre elles, et la lumière qu'elles émettent est diffusée dans l'atmosphère, ce qui fait que ça crée un halo lumineux de lumière qu'on peut voir même de loin. En fait, si vous vous éloignez à 50 km de Caen la nuit, vous pouvez vous mettre dans un champ complètement sombre, vous allez regarder dans la direction de Caen, et bien vous verrez un halo lumineux au-dessus de la ville, au travers duquel on ne peut plus voir les étoiles, car ce halo lumineux augmente la brillance du ciel et donc, par contraste, fait disparaître certaines étoiles les moins brillantes. Dans un des ateliers dont on pourra peut-être parler, on a montré aux participants comment compter ces étoiles et mesurer la quantité de pollution lumineuse dans un télescope en carton.
On parle du coup de conséquences pour l'astronomie, pour l'observation du ciel, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres conséquences qu'on n'imaginerait pas forcément au premier abord ?
Oui, alors là, on peut revenir aussi sur la définition de pollution lumineuse, qui en fait, c'est une question qui préoccupe les astronomes amateurs et professionnels d'ailleurs depuis très longtemps. Donc quand on parle de pollution lumineuse, on parle de notre capacité ou incapacité à regarder le ciel et à regarder le ciel nocturne. Donc là, qui impacte vraiment le côté astronomie. Mais depuis quelques années, en fait, il y a le concept de pollution lumineuse écologique qui est apparu et qui, justement, englobe toutes ces questions autour de l'impact de cette pollution lumineuse sur le rythme jour-nuit, ses conséquences sur les fonctionnements physiologiques des êtres vivants, les comportements qui peuvent en découdre et aussi plus globalement les impacts sur les écosystèmes, en particulier les espèces dites nocturnes, donc les insectes, les chauves-souris, les chouettes aussi, vont être très impactés par cette pollution lumineuse dans leur fonctionnement et donc être en danger.
Donc c'est un vrai problème de biodiversité et d'écologie même au sens large.
Voilà, c'est devenu, j'ajouterais même que, on va dire qu'il y a une trentaine d'années, l'espèce qui était la plus gênée par la pollution lumineuse, c'était Homo astronomicus, hein, c'était l'astronome. Là, depuis une dizaine d'années, la pollution lumineuse est vraiment devenue un sujet pour les naturalistes qui étudient les écosystèmes nocturnes. Donc c'est vraiment ces espèces animales-là dont il est démontré scientifiquement, il y a des consensus scientifiques sur le sujet, que leur rythme de vie, leurs écosystèmes sont perturbés par trop de lumière artificielle la nuit.
Pour revenir un peu du coup vers le ciel, comment on sait, comment on mesure, comment on détermine si un ciel est de, entre guillemets, de bonne qualité ou non ?
Alors on peut le faire de différentes manières. Les méthodes de mesure existantes sont de trois ordres. Les premières mesures sont les mesures par satellite. Vous avez quelques satellites, ils ne sont pas très nombreux, qui vont photographier la surface de la Terre de nuit et qui vont pouvoir quantifier combien de lumière émane des villes et des zones urbaines la nuit. Donc les mesures satellites. Ensuite, vous avez des instruments au sol. Il y a certains scientifiques, certains acteurs qui déploient des caméras sur le terrain pour expertiser des zones de pollution lumineuse en France et ailleurs. Et puis vous avez les mesures citoyennes, donc que tout un chacun peut apporter, condition d'avoir un smartphone pour certains projets ou un tube en carton pour d'autres.
Malgré tout, est-ce qu'il y a quand même des moyens pour outrepasser cette pollution lumineuse et quand même pouvoir observer le ciel correctement ?
Aller dans un endroit un petit peu préservé de la pollution lumineuse, donc s'éloigner des centres-villes, se rapprocher au plus des zones sans activité urbaine en fait, donc les montagnes, les réserves naturelles. Il y a une sorte de labellisation de zones en France qui ont été établies, qui s'appellent des réserves internationales de ciel étoilé, où là en fait il est établi qu'il y a une qualité de ciel assez exceptionnelle et préservée pour qu'on puisse observer un ciel qualitatif.
Oui, absolument. Il y a quelques-uns, même, c'est assez conséquent, quelques zones en France qui sont vraiment encore très bien préservées de la pollution lumineuse et qui sont des réserves de ciel étoilé, qui est une forme de valorisation. Hein, maintenant que c'est devenu un sujet sociétal, cette pollution lumineuse, certains parcs nationaux sont fiers d'afficher que dans leur territoire, la qualité du ciel est bonne et que qui viendrait randonner la nuit ou camper la nuit et faire du bivouac là-bas pourrait voir un ciel spectaculaire et voir la Voie lactée dans le ciel, qui est quelque chose de spectaculaire que malheureusement beaucoup de gens n'ont encore jamais vu de leur vie, alors même que c'est la galaxie qui nous héberge.
Et elles sont où ces zones ? C'est surtout dans des endroits moins habités, moins denses, oui, en termes de population ?
Oui, alors on peut retrouver la réserve internationale de ciel étoilé dans les Alpes-Maritimes.
Le parc Azur Mercantour.
Autour du pic du Midi, dans les Pyrénées.
Qui était la première en France. Dans les Cévennes, il y a une réserve internationale de ciel étoilé. Plus récemment, le plateau de Millevaches en Limousin a été labellisé. Et il y a d'autres régions en cours de labellisation, notamment en Corse, où le ciel est très beau. Bien sûr, plus vous montez en altitude dans les montagnes, meilleur sera votre ciel, car la lumière des étoiles sera moins éteinte par l'atmosphère.
Le Morvan,
s'il y a des Franciliens ou des Parisiens qui nous écoutent, c'est la zone la plus sombre, la plus proche de la capitale. Dans la région de Caen, il n'y en a pas à ma connaissance, ciel et espace, à l'été 2022, on a publié en exclusivité des cartes de pollution lumineuse du territoire qui indiquent les meilleurs endroits pour observer le ciel. D'après ces cartes-là, au sud de Lisieux, par exemple, c'est pas trop mal pour les Normands qui nous écoutent et qui rechercheraient un endroit pour voir les étoiles cet été.
Et au-delà de la création de zones vraiment protégées, il y a d'autres mesures qui sont mises en place pour protéger le ciel, pour contrer la pollution lumineuse ?
Oui, absolument. En fait, il y a des mesures qui sont déjà en vigueur, et qui sont dictées par un arrêté ministériel, l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018, et qui liste toute une série de préconisations au sujet de l'éclairage, des préconisations temporelles et des préconisations technologiques. Donc les préconisations temporelles dictent, cet arrêté dicte à partir de quelle heure les bureaux doivent éteindre la lumière la nuit, à partir de quelle heure les parcs et jardins doivent éteindre leur lumière la nuit, à partir de quelle heure ils ont droit de la rallumer. Et puis il y a des préconisations techniques, comme je vous le disais, qui en fait dictent quel type de source lumineuse on a le droit d'installer maintenant. Et si vous regardez la plupart des lampadaires modernes, ils éclairent tous exclusivement vers le sol. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies. Vous aviez beaucoup de lampadaires boules qui éclairaient principalement vers le ciel que vers le sol, et donc ils ne remplaçaient pas leur fonction d'éclairer le passage des gens ou le trottoir. À l'inverse, étaient des sources de pollution lumineuse assez importantes. Ces lampadaires boules doivent être remplacés tous avant 2025. C'est l'arrêté ministériel qui le dit. Et puis, au fur et à mesure, voilà, les lampadaires sont remplacés de plus en plus par des lampadaires qui éclairent que le sol.
Mais est-ce que malgré tout, les zones rurales, ou en tout cas les zones moins denses en population, sont complètement épargnées par cette pollution lumineuse, où on parlait, il y a toujours de l'éclairage public ou d'autres sources de lumière ?
Oui, la diffusion, oui. C'est-à-dire que même si vous situez dans un endroit où, par exemple, votre municipalité éteint l'éclairage public la nuit, si vous êtes entouré de 4, 5 municipalités qui, elles, ne le font pas, il y aura toujours un halo diffus de pollution lumineuse qui, là, vous empêchera de regarder correctement le ciel. Ceci dit, il y a de plus en plus de municipalités et autres et de communes qui s'engagent à réduire l'éclairage nocturne, soit par un usage raisonné sur certains quartiers, soit en coupant simplement l'éclairage nocturne à partir d'une certaine heure, en considérant que bon, dans les petits villages ou dans les toutes petites villes, le passage est assez exceptionnel pour ne pas... pas qu'il y ait besoin d'un éclairage continu.
En fait, la pollution lumineuse, c'est peut-être la forme de pollution la plus facile à solutionner, parce que par nature, polluer coûte cher, coûte de l'énergie. Il y a des convergences d'intérêts entre l'énergie et le respect des écosystèmes à éteindre. On l'a vu avec la flambée du prix de l'électricité. Certaines municipalités se sont mises à éteindre récemment. On estime qu'il y a au moins 30% des communes en France qui pratiquent une forme d'extinction de l'éclairage la nuit se sont mises à éteindre, tout simplement pour faire des économies d'argent et des économies d'énergie. Et c'est une démarche dont la nature va bénéficier, les écosystèmes nocturnes vont bénéficier. Donc c'est un peu ce qui sauve la prolifération ou la non-prolifération des lumières artificielles, c'est que polluer coûte quelque chose, alors qu'il y a d'autres formes de pollution qui justement rapporte de l'argent et des ressources.
On continue de parler de la pollution lumineuse et d'observation du ciel avec vous deux, mais avant on va faire une petite pause musicale. Écoutez Bezo de Rosalia, à tout de suite dans C'est pas faux.
Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele tabaco y melón, y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y darte lo entero.
Yo quiero que me des otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. No me dejes solo, ¿pa' dónde vas?
Fuma como si te fueran a echar por fumar. Y baila como si que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón, y a domingo en la ciudad.
Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. Y si lo puedo amarrar y dártelo entero.
Ya yo necesito otro beso.
C'était Bézo de Rosalia, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux et nous sommes toujours avec Marie Grand, chargée de projet réseau et recherche participative à l'Association française d'astronomie, et Guillaume Langin, journaliste à Ciel et Espace et chargé de sciences participatives à l'Association française de l'astronomie. Et on est ensemble pour parler d'observation du ciel et pollution lumineuse à l'occasion d'un atelier organisé mercredi et jeudi dernier au Dôme par le Turfu Festival. On parlait tout à l'heure un peu de ce qui était mis en place, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des politiques publiques concrètes qui se sont créées pour lutter contre la pollution lumineuse ?
Donc oui, comme on disait tout à l'heure, je pense que la chose la plus concrète qui a été mise en place, c'est cet arrêté, l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018, qui est la concrétisation d'un engagement pris par la France lors du Grenelle de l'environnement quelques années plus tôt. Donc cet arrêté ministériel liste une quantité de préconisations temporelle qui dit à partir de quelle heure certaines lumières doivent être éteintes, à partir de quelle heure elles peuvent être allumées. On peut citer pour exemple les vitrines des commerces, d'après l'arrêté ministériel, doivent être éteintes une heure après la fin de l'activité de la boutique et rallumées seulement une heure avant le début de l'ouverture de la boutique. Donc si vous voyez dans les rues de Caen ou d'ailleurs des boutiques qui restent allumées toute la nuit, elles ne respectent pas ces préconisations en vigueur depuis 2020. Et il manque peut-être des moyens de contrôle et de sanctions de ce non-respect de l'arrêté ministériel. Voilà pour les actions concrètes. Je sais pas si...
Oui, après, ce qu'on observe et ce dont on parlait juste avant, c'est que c'est extrêmement lié aux engagements des municipalités. Donc, c'est des politiques publiques qui vont être très locales et très territoriales en fonction des contraintes de l'équipe municipale, des enjeux sur un territoire et de leur capacité à faire. Faut pas oublier... On a dit que la pollution lumineuse coûtait cher à produire, mais aussi les aménagements concrets sur un territoire comme une commune de 25-30 000 habitants peut avoir aussi un coût qui, en fait, à court terme, sur des échelles de mandats, choses peuvent être quand même assez problématiques. Et ce qu'on observe aussi actuellement, c'est que les capacités à, par exemple, éteindre un lampadaire sur deux, ce qui, dans la tête de monsieur et madame tout le monde, peut être extrêmement facile à imaginer, à concevoir. Mais en fait, le réseau électrique est fait de telle façon à ce que, en fait, non, c'est absolument pas faisable sans un investissement en coût et en moyens qui peut être problématique pour des petites villes.
Est-ce que c'est un sujet, la pollution lumineuse, qui est assez connu ? Est-ce que tout le monde a conscience des problématiques que ça engendre ? Est-ce que c'est encore un truc trop marginal ?
Oui, ça devient de plus en plus... alors on est peut-être un petit peu biaisé, nous, parce que...
On baigne dedans.
On baigne avec les astronomes, donc depuis des décennies, c'est un sujet qui embête les astronomes. Moi, je pense que c'est un sujet qui monte. Je pense que pendant les confinements, il y a certaines villes qui ont continué à allumer les rues, parce que, bon, comme tu l'as un peu expliqué, Marie, ça demande quand même une organisation d'éteindre. Elles ont continué à le faire et là c'était assez flagrant que ça servait à rien parce qu'on était sous couvre-feu, sous confinement, donc ça a peut-être un peu contribué à réaliser qu'il y avait certaines, euh, certaines lumières artificielles qui étaient superflues et pas nécessaires et qui, voilà, si on les coupe, on perd pas grand chose et en plus on économise l'énergie et on fait descendre un petit peu la pollution lumineuse dans le ciel, quoi.
Oui. Oui, j'ai l'impression aussi ce qu'on disait sur les convergences d'intérêts et la question l'économie d'énergie, de raisonnement en fait dans notre consommation, elle est de plus en plus prise en considération par tout un chacun et en particulier les nouvelles générations. On l'a vu ce matin, concrètement dans le quotidien, ça peut ne pas gêner en fait les personnes. Beaucoup de gens qui vivent en ville ne sont pas forcément gênés dans leur quotidien par la pollution lumineuse. Mais cette question de laisser allumer des lumières sans grand intérêt parce qu'il y a peu de passages, parce que les vitrines des magasins, tout le monde s'en fiche en pleine nuit, ça commence à rentrer en oui. considération.
Et j'ajouterais que c'est un sujet qui monte. Pourquoi ? Parce que même si la pollution lumineuse ne gêne pas trop Homo sapiens, enfin, on a dit qu'elle gênait Homo astronomicus, donc qui pratique l'astronomie va être embêté. Tout le monde ne pratique pas l'astronomie, donc ça gêne pas spécialement Homo sapiens, mais ça gêne, comme on l'a expliqué un peu tout à l'heure, beaucoup d'autres espèces animales. Et pourquoi c'est un sujet qui monte ? Parce que depuis plusieurs années, il commence à y avoir des consensus scientifiques établis par des naturalistes, avec des publications qui sortent et qui arrivent aux mêmes conclusions qu'il y a bien, pour certaines espèces, des perturbations dans leur rythme biologique et des perturbations dans leurs écosystèmes nocturnes en général, engendrées par la pollution lumineuse. Une fois que ces faits sont établis, eh bien, on peut communiquer de manière plus précise et sérieuse sur les méfaits de la pollution lumineuse, et ça devient un sujet sociétal et un sujet environnemental.
Pour en revenir un peu sur la problématique qui va toucher plutôt Homo astronomicus, oui. On parle beaucoup en ce moment du télescope James Webb qui prend quand même des photos assez incroyables de l'espace. Est-ce que lui aussi, il est impacté par la pollution lumineuse ?
Alors lui, pas du tout.
Il est bien, lui.
Il est bien parce qu'il est... c'est un télescope spatial, donc il observe l'espace depuis l'espace. Et en plus, il est quand même assez loin de la Terre. Il est à 1,5 million de kilomètres. On l'a placé très loin. La forme de pollution lumineuse qui pourrait le gêner, donc elle n'est pas du tout celle des lumières artificielles des humains, mais c'est le rayonnement naturel de la Terre. La Terre a un albédo, enfin émet un rayonnement auquel le télescope James Webb est sensible, et c'est en quelque sorte en lui tournant le dos à la planète Terre et en étant positionné très loin qu'il se préserve de cette forme de pollution lumineuse, comme le rayonnement de la Lune d'ailleurs, ou comme bien sûr le rayonnement du soleil. Vous voyez ce pare-soleil là, qui, on a l'impression que le James Webb c'est un peu un navire dont la voile serait le miroir et la coque serait le pare-soleil. Ce pare-soleil de la taille d'un terrain de tennis est tourné en direction du soleil et donc bloque le miroir et le télescope qui est de l'autre côté de la lumière du soleil, et le miroir est plongé dans le noir complet pour observer tranquillement le cosmos.
Donc les quelques sources de pollution lumineuse que sont la Lune par exemple sont trop faibles pour vraiment...
Les mesures ont été prises par la NASA et tous les gens qui ont développé le James Webb de se préserver des nuisances de la Lune en positionnant le télescope très loin dans l'espace.
Pour en revenir un petit peu à l'atelier, on l'évoquait du coup en début de l'interview, à la base vous aviez prévu une expérience de comptage des étoiles si la météo le permettait, malheureusement ça n'a pas trop pu être le cas. À quel point est-ce que la météo peut aussi obstruer l'observation du ciel ?
L'activité même de regarder le ciel dépend en premier lieu de la météo. Si vous avez un temps un peu nuageux comme aujourd'hui, vous pouvez peut-être... apercevoir entre deux nuages quelques étoiles. Si vous avez un temps comme la semaine dernière où c'est la tempête, là c'est impossible. On ne peut pas voir comme à l'œil nu en fait avec un télescope. S'il y a des nuages, l'instrument ne verra pas à travers les nuages.
Oui, donc l'astronomie est tributaire de la météo à plein de titres. Donc s'il pleut, vous ne pouvez pas sortir. S'il ne pleut pas, vous ne pouvez pas sortir non plus s'il y a des nuages. Et si jamais le ciel est clair, mais qu'il y a beaucoup de vent, ça peut devenir problématique parce que ça fait trembler votre télescope. et d'autres, et ça vous donne froid surtout, hein, le froid est un des plus grands ennemis de l'astronome, hein,
oui.
Amateur.
Dans le texte de présentation de l'atelier sur le site du Turfu, c'est écrit « Les images satellites sont les plus utilisées, mais la mesure de l'œil humain est complémentaire pour évaluer la qualité du ciel. » Comment est-ce qu'on apprend à chacun à bien observer le ciel ?
Il y a pas mal de petites règles à respecter. La première, je dirais, c'est de passer en mode nuit. C'est-à-dire, en fait, votre œil, la nuit, va demander un petit peu de temps pour s'acclimater à l'obscurité et déployer donc toute sa sensibilité nocturne. Et ce temps, c'est à peu près une quinzaine de minutes. Donc si vous allez observer le ciel, que ce soit pour le plaisir ou pour une expérience de mesure de pollution lumineuse, faut vous éloigner des sources directes de lumière, donc des lampadaires pour ne pas être ébloui, et pendant une quinzaine de minutes, ne plus regarder de sources lumineuses, donc ne pas regarder l'écran de votre smartphone, qui va en fait lui aussi vous éblouir, et ainsi passer en mode nuit, et donc, vous permettre d'avoir toute la sensibilité, et vous pouvez employer des lampes de poche, mais plutôt de couleur rouge. On est moins sensible et moins ébloui au rouge. C'est ce que font les astronomes. Ils ont souvent une frontale rouge, une lampe frontale sur le front rouge. Mm. J'en avais une la semaine dernière dans ma poche, au cas où s'il avait fait beau à Caen. Mm.
Après, sur la formation et initiation, comment reconnaître le ciel, alors on peut apprendre tranquillement avec des cartes du ciel à se repérer, avec des constellations. On peut aussi, de façon extrêmement simple, et c'est ce qu'on a essayé de démontrer dans l'atelier, qu'avec des applications smartphone qui sont mises en mode nuit pour ne pas gêner la visibilité nocturne, peuvent tout à fait nous accompagner un soir sur une balade dans le ciel, à reconnaître, ces outils nous proposent une reconnaissance des étoiles, des planètes qu'on peut voir et des explications, enfin des constellations, et en même temps participer à la mesure de la qualité d'un ciel.
Donc des règles à connaître, mais pas besoin d'être un spécialiste de l'astronomie pour observer le ciel. Non,
c'est toute l'idée.
On a déjà parlé pas mal la semaine dernière avec deux des organisatrices du Turfu. On est dans un festival qui met en avant les sciences participatives. Quelle est la place des sciences participatives dans l'observation du ciel ?
Alors, historiquement, elle est très grande. Les astronomes amateurs et amatrices ont toujours contribué à la recherche scientifique en astronomie pour une première raison qui est qu'en fait le ciel est très vaste. Si vous voulez, le laboratoire de l'astronomie, c'est le ciel. C'est là-bas que se trouvent les sujets que vous étudiez, les planètes, les constellations, les nébuleuses, les galaxies. Voilà, il y a un espace immense que les astronomes professionnels n'ont pas le temps d'explorer dans leur intégralité. Alors de plus en plus maintenant quand même avec les télescopes automatisés. Mais donc je dirais que historiquement, il y a toujours eu une petite place pour quelqu'un à se faire dans le ciel en matière de découverte. Et c'est pour ça que l'astronomie amateur a beaucoup contribué. Maintenant, il reste des domaines où plein de petites mains sont meilleures qu'un seul gros instrument, aussi sophistiqué, aussi technologique qu'il soit. Il reste des expériences de ce type-là. On peut citer par exemple la mesure des astéroïdes par une technique appelée les occultations stellaires. C'est un cas de figure où une cinquantaine d'observateurs collaborant ensemble et regardant la même étoile ensemble vont réussir par un jeu d'ombre et d'extinction de l'étoile à dessiner la silhouette de l'astéroïde qui passe devant cette étoile et qui la fait disparaître. Un télescope tout seul, le James Webb Space Telescope par exemple, n'y parviendrait pas. Donc il existe comme ça des projets d'astronomie où plein de petites mains sont meilleures, qui collaborent ensemble, sont meilleures qu'un instrument seul, sophistiqué.
Oui, et
la mesure de la pollution lumineuse.
Ça en fait partie, et d'autant plus que la mesure de la pollution lumineuse, comme on a essayé de l'expliquer, comme ce qu'on disait, elle ne nécessite pas de formation particulière, d'initiation poussée à l'astronomie, ce qui peut être le cas pour toutes les contributions citoyennes, en tout cas amatrices, sur la thématique de l'astronomie comme les occultations. Oui. Là, sur la mesure de la pollution lumineuse, le citoyen lambda qui se balade peut mesurer avec un outil très simple, son téléphone, la qualité d'un ciel.
Vous, Guillaume Langin, donc, on le disait tout à l'heure, vous êtes journaliste à Ciel et Espace. Quand on est journaliste, surtout sur des questions scientifiques, comment est-ce qu'on vulgarise des sujets comme celui de la protection du ciel ou de la pollution lumineuse en général ?
En étant le plus méticuleux possible et le plus pédagogue possible, la vulgarisation, c'est quelque chose qui effectivement démarque peut-être un peu plus les journalistes scientifiques des autres journalistes. Pour le dire autrement, un journaliste sportif va pas réexpliquer les règles du foot à chaque article qu'il fait sur le résultat d'un match, ou va pas réexpliquer les règles du rugby à chaque article sur le rugby. Nous, effectivement, il faut qu'on veille à vulgariser, parce que certains sujets sont un peu techniques, ou même s'ils sont pas si techniques que ça, ils sont éloignés du quotidien des gens. Donc en fait, en 6 mois, si vous n'avez plus entendu parler de pollution lumineuse et de la manière dont se comporte la lumière dans l'atmosphère, bah, vous aurez un petit peu oublié, vous n'y avez tout simplement pas repensé, donc vous auriez un peu oublié comment ça fonctionne, et donc ce sera bienvenu qu'on vous réexplique à chaque fois, à chaque article. Donc c'est un challenge, effectivement, pour les journalistes scientifiques de toujours vulgariser le plus possible. Voilà, à Ciel et Espace, on essaye de relever ce challenge le mieux possible et continuer toujours de le faire.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je rappelle, Marie Grand, vous êtes chargée de projet réseau et recherche participative à l'Association française d'astronomie, et Guillaume Langin, vous êtes donc journaliste à Ciel et Espace et chargée de sciences participatives à l'Agence française d'astronomie. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Merci encore à Marie Grand et Guillaume Langin d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, et comme toutes les 2 semaines, nous donnons la parole à de jeunes doctorants qui participent au dispositif Réflexion afin de valoriser leur thèse.
Et cette semaine, nous vous proposons d'écouter Rita Lenoir, dit Caron. Elle est doctorante en sciences de la rééducation au laboratoire CETAPS à l'Université de Rouen et à l'école doctorale HSRT. Et elle travaille actuellement sur une thèse consacrée à l'intérêt du yoga dans la rééducation des patients souffrant d'accidents vasculaires cérébraux.
Réflexion. Entrée dans les coulisses de la recherche normande.
Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu pouvais un peu présenter ton parcours ? Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui ?
Alors du coup, moi j'ai commencé dans le supérieur par des études de kinésithérapeute. Donc j'ai fait 4 ans d'études à l'Institut de formation de masso-kinésithérapie de la MUS.
Et la MUS qui est
un centre de rééducation à Saint-Sébastien-de-Morsan, à côté de la ville d'Évreux. Donc au sein de ce centre de rééducation, il y a une école de kiné. C'est celle-ci que j'ai intégrée et du coup, c'est là-bas que j'ai eu mon diplôme. Et juste pendant mon année, le diplôme est passé de 3 à 4 ans avec des nouveaux modules et notamment l'initiation à la recherche. Donc j'ai découvert le milieu de la recherche, apprendre à lire des journaux scientifiques, enfin des articles scientifiques, faire un mémoire de recherche, donc faire déjà une première recherche en tant que kinésithérapeute. Et ce mémoire m'a vraiment passionnée, ce qui m'a permis après de développer cette envie d'aller plus loin, qui m'a amenée à faire un master. Mais il faut savoir qu'en tant que kinésithérapeute, théoriquement, nos études s'arrêtent après les 4 ans. Donc j'ai bifurqué vers le cursus STAPS, donc les sciences des activités physiques et sportives. Et j'ai fait un master STAPS. Et après, je suis allée vers la thèse, vers le doctorat, pour étudier l'intérêt du yoga dans la rééducation des AVC.
Justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette thèse, de quoi ça parle et comment s'est passé ton travail ?
Alors là, actuellement, je suis en 3e année de thèse. La première année, c'était un petit peu toujours la mise en route, étudier un peu la littérature scientifique. On a fait ce qu'on appelle une revue systématique pour voir ce qui avait déjà été fait autour du yoga pour les accidents vasculaires cérébraux. Après, j'ai mené une première recherche. On appelle ça un essai randomisé contrôlé. Donc j'avais 2 groupes de personnes, un groupe qui faisait de la rééduc classique et un groupe qui faisait du yoga, pour voir s'il y avait une différence entre les deux.
Pourquoi est-ce que tu en es venu à choisir ce sujet de thèse ? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir parler de ça ?
Alors, c'est vrai que c'est important de parler du sujet de thèse, comment on en arrive, parce qu'il faut vraiment être très passionné pour se lancer dans 3 ans à étudier un sujet particulier. Et le yoga, parce que j'ai découvert ça il y a déjà fort longtemps, ça a commencé au lycée. J'ai découvert ça grâce à un prof de sport. Au début, ma pratique du yoga était très limitée, hein. C'était juste le travail de posture un peu que je faisais le matin pour me réveiller. Et Pendant mes études de kiné, j'ai commencé vraiment à faire beaucoup de yoga tous les jours et à développer ma pratique. Et là, j'ai fait énormément de liens entre ce que j'apprenais dans mes cours de kiné et ce que je faisais dans mes séances de yoga. Et je me suis dit, mais en fait, les techniques d'étirement qu'on apprend, c'est les mêmes. Les pranayama, les exercices de respiration en yoga, c'est les mêmes que ceux qu'on apprend en kiné. Et donc, je me suis dit, il y a vraiment un truc à aller étudier là-dedans.
Moi, je voulais savoir, tu as parlé un peu d'une première année de mise en route. Comment ça se passe, travailler une thèse ? Est-ce qu'il y a d'abord de la recherche ? Comment ça se construit ? Quelles sont les journées types, en fait ?
Alors, il n'y a absolument pas de journée type pour un chercheur, pour un doctorant. Ça dépend de votre thématique de thèse. Ça dépend si vous êtes à temps plein sur votre thèse ou si vous travaillez à côté. Moi, j'ai la chance d'être en temps plein, donc je pouvais m'y consacrer. Ça dépend donc de sa thématique. Moi, ça s'est construit. Je devais passer mon diplôme pour devenir professeur de yoga. Donc, j'avais de la formation et beaucoup de lectures d'articles scientifiques sur le sujet. En fait, il fallait que je regarde tout ce qui avait déjà été fait. Pour pas refaire ce qui a déjà été fait et voir vers où il fallait qu'on s'oriente. Donc beaucoup de lectures et beaucoup de formations la première année.
Et la lecture scientifique, forcément, elle est très utile dans la thèse. Est-ce qu'elle est fournie actuellement sur le domaine que tu explores ou est-ce que tu as des difficultés peut-être à trouver des textes qui vont pouvoir t'amener à avancer ? Est-ce que tu as beaucoup de matière pour élaborer ta thèse ?
Alors c'est sûr que comparé à d'autres sujets, l'intérêt du yoga dans les AVC, c'est pas ce qu'il y a de plus fourni. Mais il existe pourtant déjà des études qui ont été faites. Là, de tête, je peux pas vous les énumérer, mais il y en a au moins 5 ou 6 bien concrètes où c'était vraiment de l'étude de certaines techniques de yoga sur des gens qui ont eu un AVC. Donc il existe déjà de la littérature, je suis pas partie de zéro.
Peut-être que, à part la littérature, c'était plutôt de gens dont tu avais besoin pour faire cette thèse. Tu as eu du mal à recruter ou non, ça a été, tu as trouvé les gens qu'il fallait pour faire ce sujet ?
Alors, pour ma première étude, effectivement, c'est difficile de trouver des gens. Faut beaucoup, beaucoup communiquer, expliquer aux gens ce qu'on veut faire. Surtout qu'il y a pas mal de préjugés autour du yoga et les gens peuvent se dire « Non, mais je vais pas aller à une séance pour réciter des mantras, des chansons bizarres. » Oui, beaucoup de difficultés à recruter. Mais au final, sur un an et demi, on a réussi à trouver 36 personnes qui se sont portées volontaires. Et là, je mène une deuxième expérience. J'en profite pour en toucher un mot parce que j'ai encore besoin de personnes pour cette nouvelle expérience. Et ça se passe en télé-rééducation. Donc, je le fais en visio. Donc, j'ai besoin de personnes dans la France entière. Donc, s'il y a des gens dans la région de Caen qui m'entendent, voilà, j'ai besoin de personnes qui ont fait un AVC et qui voudraient tester du yoga.
Et sur le début, tu l'as commencé quand, là, la thèse ?
Je l'ai commencé en 2020. Et donc là, j'attaque ma dernière année. Et je fais une dernière expérience dans ma dernière année, là.
Et les premiers résultats que tu as pu observer, ça se résumerait à quoi à peu près pour l'instant ?
Alors, je viens d'avoir les résultats statistiques la semaine dernière, donc je peux commencer à en parler. La première étude a permis de montrer que comparativement à la thérapie classique, le yoga est aussi efficace pour améliorer l'équilibre, la confiance en son équilibre, la mobilité du patient sur de la marche par exemple. Donc c'est aussi efficace que la rééducation traditionnelle, donc c'est une alternative possible voilà, si les personnes qui ont eu un AVC, qui ont une rééducation très longue, qui peut durer plusieurs années, s'ils ont envie de changer et pas faire les exercices habituels, mais aller vers du yoga, c'est tout à fait possible et tout aussi efficace.
Tu rentres dans ta troisième année, tu as parlé d'une dernière expérience, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Donc cette dernière expérience, c'est de comparer un groupe qui va faire du yoga en télé-rééducation, donc en visio, et un groupe contrôle qui fera rien, qui sera en liste d'attente et qui recevra le traitement plus tard. Donc voir, parce que les études sur la télé-rééducation, là pour le coup, sont très très peu nombreuses. On est vraiment au tout début, c'est un peu le Covid qui a lancé tout ça. Et donc là, on cherche à voir si c'est faisable déjà, s'il n'y a pas de danger, si c'est pratique, et du coup si dans certains cas ça pourrait être utile.
Une fois la thèse qui sera terminée, est-ce que tu as envie de rester un peu dans cet univers de la recherche ou revenir en kinésithérapie ou tu parlais tout à l'heure de prof de yoga, ça va t'amener à continuer là-dedans ou t'as juste envie de te dire que c'est une thèse, c'est une parenthèse et ça aura servi d'expérience enrichissante ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que je voudrais continuer à être professeur de yoga. Ça, c'est ma passion numéro un. Ça y est, c'est décrété. Ça, c'est sûr que je le garderai. Le milieu de la recherche, si j'ai la possibilité, oui, je continuerai parce qu'il y a plein d'autres études que j'ai envie de faire, plein d'autres idées. La difficulté de la recherche, c'est trouver des financements, trouver des postes. J'ai pas envie d'être enseignante à l'université. J'ai envie de pouvoir avoir mon entreprise et prof de yoga à côté. Et puis, si je peux mener des recherches, peut-être toujours avec l'hôpital Lamus. On va voir ce qu'on peut construire dans les années qui viennent.
tu l'as dit, il y a un peu des préjugés sur le yoga. Est-ce que c'est quelque chose que vraiment tu conseillerais, et pourquoi conseiller à quelqu'un de faire du yoga?
Alors le yoga a de nombreux bienfaits, d'abord sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique, parce qu'on va travailler des exercices de respiration, de la méditation, et ça a été montré et largement prouvé, les effets sur la psychologie, sur l'état psychologique, le bien-être. Et il ne faut pas s'arrêter à des visions qu'on peut avoir du yoga, qu'il faut soit être très très souple, soit être une jeune fille de 20 ans bien gaulée dans un legging pour faire du yoga. Ça colle beaucoup au basque du yoga ces derniers temps. C'est adaptable à tous. Le tout, c'est de trouver le bon courant de yoga et le bon professeur qui sera bien pour vous. Donc il faut essayer. Si le premier cours de yoga que vous testez n'est pas le bon, c'est pas grave, testez autre chose. Il y en a plein.
Là aujourd'hui tu réponds à notre micro, c'est dans le cadre des ateliers réflexion. Pourquoi est-ce que tu as choisi de participer à ça? Est-ce que c'est un moyen, enfin j'imagine que c'est un moyen pour toi de valoriser ta thèse, mais pourquoi particulièrement participer à cet atelier?
Parce que j'adore la vulgarisation scientifique. De mon côté, je tiens une page YouTube, j'en profite pour faire un peu de pub, qui s'appelle Physiapa. Et je diffuse régulièrement des vidéos sur la santé, sur des exercices à faire pour être en bonne santé, un peu de yoga aussi. L'idée de participer à animer une page Instagram autour de la science, pour moi c'était une évidence. Quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, il faut que je fasse ça.
Merci beaucoup Rita pour tes réponses à tes questions. On invite tout le monde à écouter tes vidéos sur YouTube. Physiapa, ça s'écrit comme ça se prononce?
Alors, Physiapa.
Et voilà, on vous invite.
C'est noté.
À regarder ça sur YouTube.
Merci
beaucoup,
à vous.
Rita. À la prochaine.
Merci encore à Rita Lemoire d'Icaron. N'hésitez pas à suivre son quotidien de doctorante et celui des 9 autres participants de Réflexion en vous rendant sur Instagram sur le compte Réflexion.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec le Dôme qui vous propose demain à 14h de venir fabriquer votre propre hôtel à insectes, un outil que vous pouvez installer dans votre jardin ou sur votre balcon et qui permettra d'accueillir les différents insectes qui vivent autour de vous, un bon moyen de les observer et de les protéger. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ledôme.info. On rappelle également que le SUAPS de l'Université de Caen organise jusqu'au 21 avril la semaine du bien-être avec différentes activités proposées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site unicamp.fr.
Et comme chaque semaine, une recommandation reportage, on vous propose jeudi soir de partir en Afrique australe, sur la colline de Komdraï, à la recherche du premier humain. L'UNESCO a appelé cet endroit le berceau de l'humanité, un trésor archéologique où la plupart de nos ancêtres ont été découverts. Le paléo-anthropologue français José Braga a trouvé là-bas les deux plus vieux ossements humains à ce jour. Komdraï à la découverte du premier humain, c'est ce jeudi 20 avril à 21h sur France 5.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Chloé pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.